On touchait à la fin de l'automne, admirable saison dans cette partie de l'Italie, que les petits exilés allaient laisser derrière eux, mais saison presque aussi rude que l'hiver au milieu des Alpes qu'ils étaient sur le point de traverser. Ils étaient arrivés à la base si pittoresque de ces redoutables montagnes, dont les neiges éternelles venaient de loin en loin attrister leurs regards et glacer leur courage. Avant de s'y engager, le petit prince Chenvis acheta, entre Biella et Ivrée, deux manteaux, l'un pour lui, l'autre pour sa sœur Olympe, qui ne cessait de dire « Mon frère, ces vilaines montagnes me font peur, n'y pénétrons pas, allons-nous-en plutôt. » « Et où aller ?» demandait le prince Chenvis. « Je ne sais, mais ces montagnes... »« Suivez-moi donc, Olympe. Puisque Dieu nous a conduits sains et saufs jusqu'ici, il saura, s'il le veut, nous conduire plus loin sans danger. » Arrivés au pied des Alpes, à la lisière de la vallée du Piémont, leur inquiétude s'accrut. Les Alpes étaient là, ces effrayantes Alpes. Malgré sa courageuse détermination, le prince Chenvis ne voulut pas y entrer avant d'avoir pris quelques renseignements sur la meilleure route à suivre, à travers tant de gorges, tant de ravins, tant de fondrières et de précipices. Que les voyageurs ont péri au milieu de ces montagnes, immuables témoins des bouleversements du globe. Il confia sa sœur à la garde des animaux, et il résolut d'aller seul à Ivrée chercher ses utiles renseignements. Ivrée est encore plus près des Alpes que Biella. « Vous me promettez d'être de retour dans 2 heures, » dit Olympe en voyant son frère décidé à se rendre à Ivrée. « Je vous le promets. Et vous, ma sœur, promettez-moi de ne pas sortir de ce tronc d'arbre dans lequel je vous ai fait cacher. J'y resterai jusqu'à votre retour. » Le prince Chenvis avait en effet placé sa sœur dans le tronc d'un vieil orme gigantesque, offrant à sa base ruinée par les siècles une large ouverture en forme d'ovale très profond. Les 3 cages, le singe et le panier au chat y furent aussi introduits. Tournebroche s'assit sur les genoux d'Olympe. C'est lui, naturellement, qui devait veiller sur toute la maisonnée. Le prince, en amassant et en empilant le plus qu'il put des rameaux de pin et des branches de cèdre au pied de l'arbre, et de façon à masquer l'ouverture, laissa cependant assez de place à Tournebroche pour qu'il allongeât son museau et dirigea ses regards à droite et à gauche. Quel tableau ingénu que ce vieux tronc d'arbre décrépit, raviné, voilé par des jonchées de feuilles vertes et permettant de voir confusément derrière ce fouillis que traverse, que crible l'air et la lumière, la tête éveillée d'un chien, le plumage éclatant d'un perroquet, le cou velouté d'un pigeon et la moitié du visage rose d'une jolie enfant. Le petit prince Chenvis, tranquille sur le sort de sa famille, prit le chemin d'Ivrée, monté sur Philosophe, qui semblait étonné de ne porter qu'une seule charge. Au bout d'une demi-heure, Olympe s'endormit au gazouillement des oiseaux qui chantaient au sommet encore vivace et fleuri du vieil arbre, et auquel répondaient les 2 petits serins de canaris cachés dans le tronc. Le petit prince Chenvis fut très exact. 2 heures ne s'étaient pas écoulées et il était déjà de retour auprès de sa sœur. Tournebroche aussi avait fait loyalement son devoir. Au pied de l'arbre se tordait dans d'affreuses convulsions une grosse couleuvre qui l'avait étranglée. Cette couleuvre avait cherché à s'introduire dans l'ouverture du tronc pour mordre Olympe pendant son sommeil. « Très bien, » dit le prince Chenvis en passant sa main sur la grosse tête de Tournebroche. « C'est très bien, mon ami. Voyez, ma sœur, » ajouta-t-il, « s'il est bon de se faire aimer des animaux, et s'ils ont une intelligence, une mémoire et un cœur. » Olympe baissa les yeux, et elle caressa aussi de sa main le généreux caniche. « Mais en route !» cria le prince Chenvis. « Le temps est beau, la route est charmante, et l'on m'a appris à Ivrée le chemin qu'il faut prendre à travers les Alpes, pour arriver sans danger en Savoie. De la Savoie, nous passerons facilement en France, et une fois en France, nous sommes sauvés. Allons, Hugues. « Allons, Auréole. Allons, Coco. Allons, Tournebroche. Allons, Topaz, Émeraude, Jacasse, Avocat. Et toi, Philosophe, bon courage. Et en route, en route !»« Cette nuit même, nous serons dans les montagnes, sur la route du Mont-Cenis. » Comme si elle eût compris la harangue et la proclamation de son jeune chef, toute la gentille ménagerie manifesta d'un mouvement unanime son contentement. Auréole, le gracieux pigeon, roucoula et battit des ailes. Coco fit son plus gros dos. Tournebroche aboya en courant comme un fou sur le chemin et en lançant avec ses pattes de derrière des nuées de poussière et de petits cailloux. Topaz et Émeraude chantèrent un de leurs plus jolis refrains. Zug piétina sous la tête de Philosophe qui se mit à braire à cœur joie. tandis qu'Avocat ne cessait de crier « Entrez, monsieur, entrez, madame !» et que la pie Mademoiselle Jacasse criait de son côté « Un sou, un sou, un sou !» Les deux enfants riaient de toute leur âme de cette joie qui marchait avec eux et leur faisait cortège. Vers le soir, ils s'arrêtèrent pour dîner une dernière fois en vue du Piémont. La nature semblait beaucoup moins riante autour d'eux. Des vapeurs grises planaient tristement sur leurs têtes. Quelques courants d'air froid venaient de temps en temps leur faire sentir qu'ils quittaient l'Italie, la contrée des fleurs, la patrie du soleil. Ils avaient achevé leur repas frugal sur le sommet d'une petite colline que séparait d'un bois de châtaigniers un ravin couvert de pruniers sauvages, lorsque le prince Chenvis s'est enlevé pour ramener Philosophe qui s'éloignait trop du quartier général, crut entendre des voix dans le ravin. Il se baisse, s'agenouille, s'étend sans bruit sur l'herbe, rampe et s'approche du bord de la colline. Trois hommes causaient. Il écouta. L'un disait « Oui, comme je vous le disais ivré, ce sont assurément les deux enfants du prince Orfano Orfana, de ce grand seigneur dont les biens sont confisqués, qu'on a fait prisonnier d'État, et qui est peut-être en ce moment sur le point de monter à l'échafaud. Oui, ce sont ces deux enfants, ils sont déguisés en mendiants. Autrefois, je les ai vus au château de leur père. J'ai reconnu le prince Chenvis à ses jolies mains beaucoup trop fines et trop blanches pour un petit ramoneur. Ils doivent être cousus d'or, des enfants de princes et de princesses. Sans doute, et il faut sur le champ. C'est pour échapper aux recherches de la justice, qui poursuit toute leur famille qu'ils ont pris ces habits grossiers. Il y a bien des diamants entre le drap et la doublure de ses vestes. Eh bien, en parons-nous d'eux, puisqu'ils sont là-haut. Pas encore, dit le chef de la bande. Il passe trop de voyageurs par ici, on nous surprendrait. Vous ne désirez pas être pendu avant le printemps prochain, mais écoutez-moi. Les deux enfants doivent prendre ce soir la route du Mont-Cenis pour se rendre à Lens-le-Bourg. Je le sais, puisque c'est moi qui ai indiqué ce chemin à Ivré au petit prince Chenvis. Nous les attendrons sur la route et nous les volerons. Pour ne pas laisser de traces de notre coup de main, chose très importante dans notre profession, nous les ferons rouler au fond de quelques bons précipices, où ils pourront crier tout à leur aise. Cette nuit donc. Cette nuit donc, camarades. Partons maintenant pour aller les attendre sur la route du Mont-Cenis. Les brigands s'éloignèrent. Quand le prince Chenvis se releva de terre, il était fort ému. Sa vie, celle de sa sœur, était menacée par ces scélérats. Il ne perdit pas courage, cependant. « Ma sœur, dit-il à Olympe, le ciel se couvre de plus en plus. Si nous restions trop longtemps ici, je ne serais pas sûr de trouver dans ces montagnes le chemin qu'on m'a conseillé de prendre. Mettons-nous tout de suite en marche, afin d'arriver avant la nuit à l'entrée de la route du Mont-Cenis. » Olympe obéit, et la caravane s'éloigna de la colline, leur dernière station en Italie. Mais le petit prince Chenvis était fort silencieux. Il réfléchissait beaucoup. Il se disait « Puisque c'est sur la route du Mont-Cenis que les brigands nous attendent, suivons une autre route et évitons-les. Oui, mais quelle autre route suivre? Y en a-t-il d'autres ? Voici ce que je dois faire, se dit enfin le prince Chenvis. Je marcherai constamment à 200 ou 300 pas de la route du Mont-Cenis, que j'aurai soin de ne pas perdre de vue, et nous échapperons ainsi au piège des trois assassins. » Olympe remarqua, sans oser en demander la cause, la sombre préoccupation de son frère. La nuit venait. Ils approchaient de plus en plus de la route du Mont-Cenis. L'air glacial des montagnes les obligea à endosser leur petit manteau brun. Bientôt, tout devint sombre et confus devant eux. Le soleil était couché, la campagne avait disparu sous un océan de brume. À 100 pas de l'endroit où commençait la route, le petit prince, sans prévenir sa sœur, appuya à droite et s'enfonça entre deux montagnes qui formaient une longue et étroite vallée. Olympe crut que c'était la véritable route du Mont-Cenis. Pendant quelques heures, le petit prince vit la route à sa gauche, mais à force de marcher, il la perdit, et il n'eut plus alors que le pressentiment de la direction qu'elle suivait. À minuit, ils étaient complètement égarés. À droite, à gauche, devant eux, derrière eux, à leurs pieds, sur leurs têtes, s'élançaient des masses de granit formidables. Pour augmenter l'embarras et la douleur de leur position, du fond d'un ciel bas et opaque, comme la voûte d'un four éteint, commençait à tomber de la neige en abondance, une neige dont chaque flocon, en touchant la chair, donnait le frisson à tout le corps. N'oubliez pas que les deux enfants avaient vécu jusqu'alors dans les douceurs de la richesse. Entourés de soins et de caresses, servis par une nombreuse domesticité. La bise noire soufflait. C'était un vent aiguisé par le contact des montagnes et qui coupe comme une lanière de cuir. Un torrent invisible grondait au-dessous du rocher sur lequel ils étaient perdus. Quel froid, quelle obscurité, quelle terreur! Il fallut s'arrêter. Olympe se mit à pleurer, et les pauvres animaux, transis et grelottants, s'étaient ramassés en boule. Le prince Chenvis s'agenouilla pieusement, croisa ses petites mains glacées et dit à haute voix « Mon Dieu, ayez pitié de nous qui allons mourir. Mon Dieu, ayez surtout pitié de ma sœur que j'ai entraînée dans ce péril. » Sa prière étant faite, il se releva. Il avait puisé du courage et de la force dans cette invocation. Il étala son manteau à terre, sous l'âne même, et il ordonna à sa sœur de s'y étendre. Quand Olympe fut couchée sur le manteau, il la couvrit avec celui qu'elle portait, et il plaça le chat et le singe sur ses pieds pour qu'elle eût moins froid. De cette manière, les deux animaux avaient une part de l'abri singulier qu'il avait imaginé. Les trois cages furent posées près d'Olympe. Le petit prince, dénouant ensuite la couverture ployée entre la selle et le dos de l'âne, la jeta dans toute son ampleur sur l'impassible compagnon de leurs infortunes et en laissa pendre les deux côtés. Grâce à ces ingénieuses dispositions, toute l'hôtellerie se trouva cachée et abritée. « Et vous, mon frère ?» dit Olympe. « Moi, je veillerai avec Tournebroche. Dormez. Oh, mon frère, mon bon frère !» Le silence se fit ensuite sur ce rocher blanc de neige, humide de brume, fendu par le froid. Le torrent seul s'entendait. Debout, près de Philosophe qui ne bronchait pas, le petit prince Chenvis recevait en plein vent l'avalanche glacée et résistait, avec le fidèle Tournebroche, au souffle impétueux de la bise noire. Quelle nuit ! Quelle nuit ! Le cher enfant se mourait de fatigue et d'épuisement. Il respirait à peine. Ses petites mains étaient de marbre, de larmes glacées s'étaient figées sur ses joues. Tout à coup, un épouvantable hurlement éveille les échos des montagnes. Le poil de Tournebroche s'est hérissé. Le hurlement redouble, s'approche, c'est un loup. « Mon frère !» crie Olympe. « Mon frère !» L'âne tremble de peur sur ses jambes qui ploient. « Mon frère ! Ne bougez pas, ma sœur, ne bougez pas !» Le loup, dont les yeux étaient deux épées rougies au feu, dont la langue était une flamme, s'élance, terrible, agile, affamé, sur l'âne. Mais au même instant, Tournebroche se précipite sur le loup, le saisit, le mord, le déchire au ventre. Combat acharné, combat à mort, morsure, aboiement. Après des secousses furieuses, le chien et le loup entrelacés roulent du rocher dans le précipice au fond duquel coule le torrent. Ils roulent longtemps. Un long silence succède à cette effrayante chute. Puis, au bout de quelques minutes, on entend le frôlement d'un animal essoufflé qui cherche à grimper et qui retombe à chaque effort qu'il fait. Au risque de sa vie, au risque de ramener le loup, le petit prince dénoue sa ceinture de cuir et la laisse pendre le long du précipice. Un corps lourd s'y suspend. Le prince Chenvis l'attire péniblement à lui. Le corps arrive enfin au bord du rocher. Est-ce le loup qui va le dévorer? Est-ce le chien qui l'arrache à la mort? C'est Tournebroche qui revient. La gueule ensanglantée, il a tué le loup. La nuit était finie, le jour reparut. À sa clarté blafarde, les deux enfants aperçurent perpendiculairement sous eux le village de Lens-le-Bourg qui est bâti au pied du Mont-Cenis. Ils s'y rendirent en moins d'une heure. Là, de braves gens les réchauffèrent, leur firent faire un bon repas et leur préparèrent ensuite des lits bien doux. Les pauvres animaux ne furent pas oubliés. Philosophe eut du son et du foin à son gré. Tournebroche, pour avoir tué un loup, exploit très méritoire au pays de montagne, où ces animaux sont une calamité publique, eut la moitié d'un gigot rôti et un pain entier trempé dans de la soupe grasse. Zug fut bourré de fruits. Coco nagea dans des débris de volaille. Quant aux oiseaux, ils ne furent pas moins bien traités. Les exilés restèrent 6 jours entiers à Lens-le-Bourg. Ils n'en partirent qu'après s'être complètement remis de leur fatigue. De Lens-le-Bourg à Chambéry, de Chambéry à Lyon, de Lyon à Paris, leur voyage s'accomplit sans accident notable. Mais à Paris, il ne leur restait plus un sou de l'argent qu'ils s'étaient procuré par la vente de la barque sur le lac Majeur. Les voilà donc à Paris. « Il est temps de vous apprendre, » dit le petit prince à sa sœur, quand ils furent sur les boulevards de l'immense ville, « le motif pour lequel j'ai amené de si loin ces animaux dont la conservation a été souvent pour nous un grave souci. » « Et quel est ce motif, mon frère ? Regardez ma sœur, ou plutôt, écoutez. »« Messieurs, dit le prince Genvis à la foule qui les entourait déjà, et très étonné de voir un âne portant deux enfants, trois cages, un singe et un chat. « Messieurs, il n'y a de honte qu'à mal faire, et je n'en éprouve aucune à vous apprendre que l'industrie de ces animaux est notre seule ressource à ma sœur et à moi. » Il ajouta, « Zug, saluez ces dames et ces messieurs, et dansez l'anglaise à ravir. » Zug fit trois courtoises révérences et dansa l'anglais sur un tapis. Il fut trouvé charmant. Zug donna ensuite la main à une foule de jeunes personnes, envoya des baisers aux croisés, applaudit quand son maître lui ordonna d'applaudir. Une vingtaine de petites pièces de cuivre et d'argent tombèrent autour du tapis. Zug les ramassa prestement et les porta avec mille gambades à son maître. Tournebroche eut son tour. « Que celui qui désire jouer une partie d'écarté avec ce brave caniche, dit le prince Genvis, veuille s'approcher de ce banc. Un chien jouait aux cartes, quelle plaisanterie, murmurait-on dans la foule. Oui, messieurs, il joue aux cartes. Daignez vous en convaincre, approchez. Enfin, un tambour-major se détacha du cercle incrédule pour éprouver l'habileté de Tournebroche. L'enjeu était de 2 francs. Le tambour-major battit les cartes, les distribua et commença la partie. Il jette le 8 de cœur. Tournebroche pousse un as de cœur avec la patte car le jeu était étal devant lui et il fait une levée, puis il avance un atout. Le tambour-major, qui n'a pas d'atout, laisse tomber un pic. Tournebroche, voyant cela, aboie très fort, ce qui signifie qu'il a gagné, qu'il n'a plus que des atouts devant lui. C'était vrai. « J'ai perdu, » dit le tambour-major en se levant. « Quand je retournerai dans mon pays, je pourrai dire que mon maître est un caniche. » On applaudit beaucoup et ce dernier exercice rapporta encore une foule de petites pièces aux enfants qui, le soir, firent un bon repas, régalèrent de leur mieux leurs utiles pensionnaires et payèrent un mois de loyer à leur hôte. Le lendemain, le prince Genvis, avec le reste d'un gain si honorable, loua un petit théâtre en plein vent sur le boulevard du Temple et il fit peindre une enseigne sur laquelle on lisait en lettres d'or majuscules « Grand théâtre du prince Genvis ». On voyait aussi sur cette resplendissante enseigne les portraits de Zug, de Coco, d'Avocat, de Jacasse, de Tournebroche, d'Auréole, de Topaz et d'Émeraude. Philosophe était dans un coin de l'enseigne. Les deux enfants en occupaient le milieu, une baguette à la main, signe de commandement. Le peintre, qui était un honnête homme, n'avait épargné ni le rouge vif ni le bleu foncé sur cette magnifique toile qu'on apercevait du château d'eau et des filles du calvaire. Paris s'éprit tout à coup pour le spectacle que donnèrent ces deux petits-enfants qui avaient fait de 6 habiles acteurs d'un singe, d'un chien, de 2 serins de canaries, d'un perroquet, d'une pie et d'un chat. On trouva avec raison ce spectacle beaucoup plus amusant, plus vrai, plus naturel que la représentation d'une tragédie. Ce qui contribuait puissamment à attirer la foule, c'est le singulier appel que ne cessait de faire aux passants le perroquet rouge en criant « Entrez, messieurs, entrez, mesdames !» et la pie en disant avec volubilité « Un sou, un sou, un sou !» On accourait de tous les points de la ville pour entendre Jacasse et Avocat. Une fois la porte, on entrait. Une fois entré, on applaudissait aux grâces de Zug, costumé en troubadour, tunique orange, toque à plumes blanches. À l'intelligence de Tournebroche venant plus d'un siècle avant le fameux chien Munito, émerveillé Paris, et aux incroyables exercices des 2 serins de Canaries qui se battaient à l'épée, au pistolet, obéissaient au commandement, mettaient le feu à un canon et se rendaient mutuellement des honneurs funèbres après la bataille. Admirable spectacle que couronnait un concert donné par Coco. Quand le prince Genvis lui serrait la patte, Coco, ainsi qu'il a déjà été dit, se souvenait du supplice que lui infligeait le cruel et misérable rôle, et il miaulait. « Ah, vous dirais-je, maman ? Et j'ai du bon tabac dans ma tabatière. » Au bout d'un an, les enfants, devenus populaires à Paris, comme le furent beaucoup plus tard les petits acteurs de M. Comte, avaient amassé près de 2 000 francs. Ils eussent été heureux dans leur disgrâce s'ils avaient pu savoir où étaient leur père et leur mère. Les reverraient-ils jamais? Vivaient-ils encore? Les méchants qu'ils avaient perdus dans la confiance du roi n'avaient-ils pas été assez puissants pour les faire mourir? À ces tristes pensées, les 2 enfants se laissaient aller au découragement. Ils ne parvenaient à se consoler que par l'espérance et la prière, ces 2 trésors inépuisables des malheureux. Leur succès grandissait sans cesse. On voulut les avoir à la cour. Ils y furent appelés pour montrer les talents de leur troupe. Les grands seigneurs, imitant la cour, les demandèrent aussi, les fêtèrent pendant tout un hiver. pas de soirée sans le prince Chainevis. Chainevis par-ci, Chainevis par-là. On porta des robes et des bonnets à la Chainevis. Il est inutile de dire que les animaux partageaient les avantages de cette prospérité si bien méritée. S'ils avaient leurs petits caprices, ils ne les avaient pas longtemps. Auréole seul, le pigeon blanc au cou azuré, avait persisté dans l'habitude de s'absenter. Pour le corriger, le petit prince tenta de l'enfermer, mais l'oiseau tomba sérieusement malade. Vite, il fallut lui rendre sa liberté et son indépendance. Un jour, ce jour est à noter, il y avait spectacle extraordinaire au théâtre du prince Chainevis. Foule à la porte, foule sur les marches, foule dedans. C'était d'ailleurs un dimanche. Enfants, femmes, soldats, bourgeois, ouvriers entraient ou prétendaient entrer. Le petit prince était habillé en prince, ce qui, dans sa position, équivalait à un déguisement. Sa sœur en princesse. Avocat déployait sa belle voix pour dire « Entrez, messieurs, entrez, mesdames !» Et la pie se rengorgeait en criant de son côté « Un sou, un sou, un sou !» Enfin, le spectacle commence. D'abord, rares et modérés, les applaudissements augmentent à mesure que les tours d'adresse des acteurs deviennent plus remarquables. Peu à peu, ce public, serré, encaissé entre ses planches et ses toiles grises, s'anime, et tous les sentiments de sa joie se manifestent sous diverses formes. Ici, c'est un groupe d'enfants naïfs, dont la bouche s'ouvre et s'arrondit en corolles. Là, ce sont des soldats prodigieusement émerveillés de l'élasticité de Zug. L'admiration en eux ressemble à de la stupidité. Ils sont immobiles, figés. Plus loin, tout un banc de nourrices est sous le charme du même étonnement. Cependant, leurs nourrissons sont encore plus étonnés qu'elles, leurs nourrissons qu'elles ont oubliés sur leurs genoux et qui roulent à terre. De ce côté, des ouvriers endimanchés jusqu'aux oreilles prétendent que Tournebroche n'est pas un chien, mais un enfant caché sous la peau insidieuse d'un caniche. De l'autre côté, ce sont des bonnes femmes de la campagne, fort disposées à crier au sortilège. Les deux enfants leur représentent un sorcier et une fée. Mais quelles que soient les opinions et les préjugés, on bat des mains à chaque instant de tous les points de la salle. Les bravos ébranlent les murs de sapin et agitent le dôme de toile. Tout marchait à souhait jusque-là. Mais voilà que vers le milieu de cette soirée d'enchantement, Tournebroche, inquiet depuis quelques minutes, s'approche de la rampe, s'en éloigne à regret pour y revenir encore, et finit par perdre, dans ses mouvements de distraction, une partie de la bonne tenue que d'habitude il a devant le public. Qui peut donc ainsi le détourner de la ligne de ses devoirs dans un pareil moment? Est-ce par hasard ce spectateur de figure laide, commune, mais dont les habits ruisselants de pierreries et de perles fines sont ceux d'un marquis, peut-être d'un prince? Il est assis en effet au premier rang. Le public n'a cessé d'admirer pendant les entractes l'ample perruque blonde de cet homme, son immense cravate brodée, ses manchettes de maline frisées comme des feuilles de chou, les chaînes de ses deux montres, car il porte deux montres, son gilet écarlate semé de petits soleils d'or et de petites lunes d'argent, sa culotte de satin aurore et son épée dont la poignée est une tête de tigre en or massif. Cet étranger, si riche, si éclatant dans sa mise, est assis entre deux personnages graves, un homme et une femme, tous les deux vêtus de noir des pieds à la tête, tous les deux paraissant fort mal à l'aise et presque honteux d'être vus par ce monde qui ne peut regarder le personnage magnifique sans diriger aussi un coup d'œil d'attention sur eux. Tout à coup, Tournebroche, dont le flair, dont les regards fébriles ne se sont pas détachés du bizarre personnage, bondit, franchit la rampe avec la promptitude qu'il montra la nuit où il s'élança sur le loup des Alpes. Il tombe sur cet homme et se cramponne à ses flancs, à son cou, à ses épaules. Il le mord, il hurle, il l'étouffe. Impossible de lui arracher sa proie. Il déchire la superbe cravate blanche de cette espèce de prince épouvanté, lacère à belles dents son habit de cour, son gilet à soleil d'or et à lune d'argent, et met en charpie ses manchettes sans cesser d'aboyer. Pour augmenter la confusion et le désordre, le singe saute à son tour par-dessus la rampe et s'abat sur la perruque blonde de celui que le caniche est en train de dépecer. Zug emmêle les cheveux de la perruque, puis la saisit, l'arrache, la secoue, la pose un instant sur sa tête et la lance ensuite avec mépris au plafond de la salle. On aperçoit alors les cheveux naturels de l'étranger, une crinière rouge taillée en brosse. Zug, qui a produit la métamorphose, veut en jouir à sa manière. Il se carre sur cette tête et y piétine avec des ricanements ironiques et sinistres. Tournebroche émiette toujours l'étranger. Ce n'est pas tout. La pie, le perroquet, le chat et les deux serins de canaris quittent la scène et vont se mettre de la partie. Jacas pique avec son bec pointu le menton de ce spectateur littéralement livré aux bêtes. Le perroquet lui pince affreusement le nez. Le chat lui égratigne le front. Tandis que les deux serins de canaris chantent la victoire sur ce champ de carnage. On vient cependant de tous côtés au secours de la victime, mais il est bien tard. L'homme de la première galerie est en lambeaux et en sang. Ses yeux, surtout, ont été fort maltraités. On le dégage, et c'est alors que les deux enfants, reconnaissant lui, le valet tyrolien du château Orfano Orfana, le bourreau impitoyable des animaux domestiques. Roll enfin! On le transporte évanoui hors de la salle, suivi des deux personnages vêtus de noir qui assistaient avec lui au spectacle. Le prince les reconnaît aussi. L'homme est son ancien gouverneur infailliblement, la femme est la gouvernante d'Olympe, mademoiselle certainement. Le public, qui ne sait pas pour quel motif de vengeance les animaux savants du prince Chenvis se sont portés à de tels excès contre un spectateur, crie, s'indigne et demande justice. La police est représentée partout en France, particulièrement dans les salles de spectacle. Elle se produit sous la forme de quatre exempts, sergents de ville autrefois, et on lui fait passage. Les exempts montent sur le théâtre, enferment d'autorité les animaux dans leur cage et signifient aux enfants qu'on va les conduire tous les deux dans la prison de Bicêtre. Responsables de toute leur troupe, ils auront à s'expliquer devant le tribunal sur les actes de férocité dont elle s'est rendue coupable. On les emmène donc, enchaînés l'un à l'autre, à la prison de Bicêtre. Le spectacle, si heureusement commencé, finit dans l'épouvante. Pendant plusieurs jours, tout Paris s'entretint de l'événement. L'homme à la perruque blonde était mourant, d'autres prétendaient qu'il était mort. Il nous reste à dire comment Roll se trouvait à Paris et assistait aux exercices du petit prince Chenvis. Quand les troupes envoyées par le roi de Sardaigne prenaient possession du château du prince Orfano Orfana, les domestiques, profitant du saccagement général, faisaient main basse, ainsi qu'il a déjà été dit, sur les objets précieux. Roll, qui savait mieux que personne, en sa qualité de valet de chambre, où étaient déposés les riches écrins de la princesse et la cassette de son époux, les avait dérobés et s'était enfui en les emportant. En un jour, il avait acquis une immense fortune. En un jour, de valet de chambre, il passait grand seigneur. Afin de jouir sans trouble du fruit de ses rapines, si une mauvaise conscience n'est pas censée s'agiter, il s'était rendu en France, à Paris, la ville où il est le plus facile aux gens d'échapper aux recherches de la justice. Il vivait donc à Paris depuis près de 2 ans. Il y menait grand train, une vie de prince. Pour paraître prince à tous les yeux, le fripon enrichi avait attiré près de lui le gouverneur infailliblement et la gouvernante certainement, qu'il retenait par la peur et l'intérêt. Par la peur, car l'un et l'autre savaient que Roll les étranglerait sans pitié si jamais il révélait l'origine de sa fortune. Par l'intérêt, parce qu'il n'avait plus pour vivre que la déplorable ressource de le servir. Ce faquin trouvait en outre une occasion de se venger de la bassesse de son origine et de sa condition première, en imitant en tout le prince Orfano Orfana et la princesse, ses anciens maîtres. À son tour, il avait comme eux des gens distingués à son service. Et comme il se faisait servir, quel bon maître! La gouvernante, certainement, apprêtait son dîner, elle était sa cuisinière. Le gouverneur infailliblement battait ses habits et brossait sa chaussure. Il disait au gouverneur « Allons vite, donnez un coup de peigne à mon Altesse, apportez les pantoufles à ma seigneurie. » À la gouvernante « Vous ferez à mon Altesse un potage aux amandes douces que je prendrai en revenant du spectacle. » Infailliblement répondait « Infailliblement, monseigneur. » Et mademoiselle certainement répondait « Certainement, monseigneur. » Des personnes compatissantes et d'un haut rang qui avaient pris en véritable affection les deux pauvres enfants si malheureux, intervinrent chaleureusement et firent mettre en liberté la petite Olympe. Mais elles n'obtinrent rien du chef de la police en faveur du prince Chenvis. Il passerait par un jugement, et ce jugement serait des plus sévères selon toutes les probabilités. Un homme était en danger de mort, ou tout au moins de perdre pour jamais la vue. Comment laisser impuni l'auteur d'un si funeste accident? Il fallait donner un exemple au battleur. Pauvre prince Chenvis, assimilé à un battleur, à un saltimbanque, à un bohémien, lui. Il subirait donc une condamnation proportionnée au grave malheur qu'il avait causé. Il fut aussi question de se débarrasser de tous les animaux qui appartenaient au prince, ses compagnons, ses amis, sa ressource dans la mauvaise fortune. Oui, il fut question d'assommer, de tuer, d'étrangler philosophes, tournebroches, zugs, jacasses, avocats, cocos, topazes et émeraudes. Si Auréole ne fut pas compris dans l'arrêt de mort, c'est que le jour de la bagarre au spectacle, il était sorti par un trou du plafond, avait pris son vol dans les airs et n'avait plus reparu. Par réflexion, on se dit, non pas qu'il était trop inhumain, mais trop au-dessous de la dignité des juges du Grand Châtelet, de condamner à mort un âne, un chien, un singe, une pie, un perroquet, un chat et deux serins de canaries. On se borna à les transporter au jardin du roi. Privée de son frère, Olympe se désolait jour et nuit. Sans doute, elle pouvait changer la face de l'accusation qui le tenait enchaîné au fond d'un cachot de Bicêtre. Sans doute, elle pouvait dire que Rôle avait été autrefois au service de leur père et de leur mère, et qu'il les avait odieusement volés. Et de cette manière, à l'aide de quelques autres paroles, s'expliquait d'elle-même la colère des animaux contre cet homme. Mais recourir à cet aveu, n'était-ce pas faire connaître aussi que leur père et leur mère étaient prisonniers d'État, et que leurs enfants étaient également suspects et poursuivis? Après cette déclaration, on ne les aurait acquittés d'une part que pour les accuser d'une autre. Il n'aurait fait que changer de crime et de prison. Et l'infernal Rôle savait bien cela quand il était venu les braver jusque dans leur petit théâtre et les humilier avec un luxe volé à leurs parents. Il fallait donc qu'Olympe se tue et laissa condamner son frère. Pauvre petit prince. Comment supportait-il son malheur et sa dure captivité? Personne avec lui pour le plaindre, le consoler et lui donner de l'espoir. 2 mois, 3 mois s'écoulèrent et les portes de sa prison ne s'ouvraient pas. À cette époque, on était lent à juger un accusé, presque aussi lent qu'aujourd'hui. Olympe s'était rendu plusieurs fois au pied de la tour où son frère était enfermé, mais la croisée de sa prison était si haute, si étroitement grillée, qu'elle parvenait à peine à distinguer à travers les triples barreaux de fer sa figure pâle, amaigrie et souffrante. Il se disait adieu de la main et elle sortirait le désespoir au fond de l'âme. Rôle, puisqu'il faut encore en parler, n'était plus en danger de perdre la vie, mais ses yeux étaient toujours dans un horrible état. 6 mois se passèrent, et l'on ne parlait pas encore de juger le prince Genvis. Que c'était long, mon Dieu! Un jour, le roi était à la chasse dans la forêt de Sénart. Le mécontentement se lisait sur son visage, car aucun gibier n'était tombé sous ses coups, ni sanglier, ni cerf, pas même un lièvre. Ses courtisans gardait respectueusement le silence autour de lui. Il allait se retirer, abandonner la chasse, quand tout à coup un pigeon fend les airs, un pigeon blanc. « Celui-là du moins, s'écrie le roi, ne m'échappera pas. » L'oiseau est haut, mais l'arme du roi est excellente. Il ajuste, il tire, il manque l'oiseau. Le pigeon blanc va se poser plus loin. Le roi s'obstine à le poursuivre. Il approche doucement, il se dispose à tirer une seconde fois, mais il s'arrête. Il aperçut un carré blanc suspendu au cou du pigeon. Il regarde mieux. Ce carré blanc est un message, une lettre. J'aurai le pigeon blanc et le message qu'il porte, s'écrie le roi, et il fait feu. Pas plus que la première fois, le pigeon blanc n'est tué. Quelques gouttes de sang tombent, l'oiseau n'est que blessé. Il s'enfuit et s'élève ensuite radieux dans les airs. Je perdrai ma couronne de France, dit le roi amèrement désappointé, où j'aurai ce pigeon blanc? Les courtisans entendent ces paroles, c'est un ordre pour eux. Tous alors de poursuivre l'oiseau. Le roi s'élança sur son meilleur cheval, les courtisans le suivirent. Le pigeon blanc franchit la forêt de Sénart, coupe la Seine, plane sur les champs de blé qu'il laisse derrière son vol. On s'acharne après lui, on ne le perd pas de vue. La campagne entière se soulève. Qu'est-ce donc? C'est le roi qui veut atteindre ce pigeon blanc, ce pigeon enchanté, répondent les courtisans aux villageois. Enfin, le pigeon blanc, malgré les clameurs, descend sur la noire prison de Bicêtre et se pose en roucoulant sur l'une des barres horizontales d'une grille. C'est celle du cachot où gémit le prince Genvis depuis plus de 6 mois. « Qu'on monte à ce cachot ?» ordonne le roi. « Je veux cette lettre et ce pigeon blanc. J'ai engagé ma couronne. » Il est obéi. On lui apporte aussitôt la lettre. Il l'ouvre et lit. « Chers et bien-aimés enfants, nous vivons et nous sommes libres. » Le roi de Sardaigne a reconnu notre innocence. Depuis 3 jours, nous sommes au château Orfano Orfana. Où êtes-vous? Si Dieu permet que cette lettre vous soit remise par Auréole, le bon pigeon, venez, venez, venez! votre père et votre mère, prince et princesse Orfano Orfana. » Étonné du contenu de ce message, le roi s'informe avec bonté et il apprend, du prince Chenvis lui-même et d'Olympe, qu'ils sont les enfants du prince et de la princesse Orfano Orfana. Sur le champ, le petit prince est mis en liberté. Le roi l'embrasse et lui dit « Après-demain, vous partirez pour l'Italie avec votre sœur. » Le lendemain, le roi donna une grande fête au prince Chenvis et à sa sœur Olympe et les combla de riches présents. « Que voulez-vous encore ?» leur demanda-t-il en souriant. « Que votre majesté, répondirent les deux enfants, nous fasse rendre nos chers compagnons. « Soyez satisfaits, dit le roi. Un mois après, il rentrait au château Orfano Orfana avec deux personnes de confiance et de haute distinction chargées par le roi et la reine de France de les accompagner jusque chez eux. Leur père et leur mère étaient allés à leur rencontre. Que d'embrassements, quelle joie, que de douces larmes venaient du cœur. Comme on caressa aussi le beau pigeon blanc porteur miraculeux du message. Auréole était de la famille de ces pigeons voyageurs, originaires d'Orient, qu'on dresse tout jeune. On leur enseigne à se rendre d'un endroit à un autre, séparés quelquefois par 300 ou 400 lieues de montagne, en emportant fidèlement à leur cou la lettre qu'on leur a confiée. Le beau pigeon blanc, pendant son voyage et son séjour en France avec le jeune frère et la jeune sœur, allait constamment visiter, ainsi s'expliquent ses absences, le prince et la princesse Orfano Orfana, près de 2 ans captifs dans la forteresse de Pignerolles en Piémont. Ah, s'il eût pu confier au prince Chenvis et à sa sœur dans quel endroit leurs parents chéris subissaient une injuste captivité. Mais le jour où leur mère, une mère seule à de ces pensées-là, passa au cou d'Auréole un cordon de soie auquel pendait une lettre, il comprit et il alla à tire-d'aile de la vallée du lac Majeur au mur de Bicêtre. Vous savez à travers quel danger il dut passer pour porter cette lettre tachée de son sang, cette lettre d'une mère désespérée à son fils prisonnier. Touché de la double intimité créée par le besoin, consacré plus tard par la reconnaissance entre ses enfants et les animaux, leurs compagnons d'infortune, le prince Orfano Orfana voulut que l'enseigne du théâtre Chenvis fût placée dans le plus beau salon de son château et y demeura tant que le château serait debout. Philosophe ne fit plus de corvée, il ne porta plus le bas. Les deux petits serins de Canaries, Topaz et Émeraude, eurent une volière d'honneur. Zug eut le droit de dormir sur le canapé de la princesse. Coco, Jacasse et Aboca obtinrent aussi de belles récompenses. Une princesse de Carignan envoyait chaque année au beau pigeon blanc un boisseau de graines choisi par elle. Il fut arrêté que tous les descendants de Tournebroche vivraient et mourraient au château. Le portrait du bon caniche est au musée de Turin. Tous les animaux vécurent encore longtemps. Auréole mourut le premier. On l'embauma avec soin et on le déposa ensuite délicatement au fond d'un nid de soie tapissé de duvet de cygne. Une larme pour lui. Et le gouverneur, infailliblement? Il revint au château Orfano Orfana où s'écoula paisiblement sa vieillesse. Et la gouvernante, certainement? Elle revint aussi au château. Roel devint aveugle par suite de la terrible vengeance des animaux qu'il avait torturés. Le châtiment de Dieu ne s'arrêta pas là. Roel resta toujours méchant. Ainsi s'achève Les aventures merveilleuses et touchantes du prince Chenvis et de sa jeune sœur par Léon Gozlan.